Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le chef de l'État est à Tshikapa depuis cet avant-midi. Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population dans un meeting populaire. À l'occasion, il a abordé plusieurs sujets liés au social du peuple, mais il les a aussi écoutés par un jeu de questions et réponses directes. Le programme de désarmement et démobilisation en Ituri a été lancé avec la présence du coordonnateur qui est sur place, mais les avis de la population restent partagés quant aux résultats attendus. Les détails dans cette édition du journal. Enfin, nous recevons dans cette édition Madame la ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, Rose de Mutombo, a visité la prison centrale de Mbujimayi. Elle nous dresse l'état des lieux de cette prison ainsi que les dispositions prises pour son désengorgement. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé ce lundi à Tshikapa, dans la province du Kasaï, en compagnie de la première dame. Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population dans un meeting populaire. La lutte contre les violences sexuelles dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, la gratuité de l'enseignement des bases, la fourniture en eau et électricité ont notamment fait partie des sujets abordés. Il a aussi accordé la parole à quelques habitants de la ville qui lui ont directement posé d'autres problèmes dont souffre la population de Tshikapa. Nous aurons donc le plus ample détail sur cette visite du chef de l'État dans la ville de Tshikapa dans nos prochaines éditions. Pendant ces temps, en Mbujimayi au Kasaï oriental, hausse des prix du litre de carburant depuis bientôt 4 jours. Les importateurs de produits pétroliers parlent de la hausse des prix à l'achat ainsi que les difficultés liées au transport de cette marchandise de Lubumbashi jusqu'à la gare ferroviaire de Mweneditu. La Société nationale de chemin de fer du Congo affirme pour sa part avoir acheminé sur place à Mweneditu plus de 10 wagons de carburant la semaine dernière pour lutter contre la hausse des prix de ce produit. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le litre d'essence se vend actuellement à 4000 francs congolais à la pompe. Chez les revendeurs appelés Kadhafi, ce même litre coûte chez certains 4000 et chez d'autres 4300 francs congolais. Contactez les présidents des importateurs de produits pétroliers, lié cette situation à la hausse des prix à l'achat de cette marchandise et aux difficultés de transport. Kalou Chitenga.
Nous achetons tous ces carburants que vous voyez sur la ville de Mbujimayi aux importateurs. Quand ils sont passés par un contrôle, on a trouvé que les importateurs là fraudaient quelques-uns qui ne payaient pas la douane. Pour le moment, le carburant se vend à 1,7 $ par le litre. Et si nous mettons aussi les frais de transport, le deuxième point, il y a le moment où vous avez le carburant et que vous arrivez à la HSCC, il n'y a pas de wagon.
Pour les représentants provinciaux de la SNCC Mbujimayi, cette hausse ne peut pas être attribuée à son entreprise qui s'est battue pour acheminer un lot important de carburant la semaine dernière. Justin Bouilly.
Cette flambée de prix de carburant n'est pas imputable à la SNCC. Rien que pour la période allant du 24 au 29 décembre, 9 trains ont été organisés au départ des Kamina et de Kananga vers Mweneditu. Ces 9 trains ont ramené à Mweneditu plus ou moins 102 wagons, dont 14 wagons de carburant en vue.
Signalons que la hausse de prix des transports a non seulement de l'influence sur le prix des transports en commun, mais aussi sur les denrées alimentaires. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Au lendemain du lancement officiel du programme de désarmement et démobilisation en Ituri par le coordonnateur national du PDDRCS, les avis de la population restent partagés quant aux résultats attendus. Certains habitants se veulent optimistes et estiment que ce programme pourra mettre fin au calvaire que vit la population depuis plusieurs années. D'autres, en revanche, doutent que ce programme puisse atteindre son objectif faute de moyens financiers. Pour sa part, le groupe de pression Jeunes Leaders de l'Ituri pense qu'il est important que les autorités militaires accélèrent avec les opérations pour contraindre les fils égarés à revenir à la raison. Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis la semaine dernière que des indices du démarrage des sensibilisations des groupes armés à quitter la brousse sont visibles dans la ville de Bounia. Parmi ces signes, il y a d'abord l'arrivée à Bounia de l'équipe de Task Force pour la paix, puis celle, c'est dimanche, du coordonnateur national du programme des DDRCS. Ces animateurs disent venir parler aux communautés afin qu'elles empruntent la voie du dialogue pour la reconstruction de l'Ituri. Cependant, nombreux sont les habitants qui souhaitent voir la matérialisation de ces programmes répondre aux attentes de la population fatigué des longues années des conflits meurtriers.
On souhaite que cela ne soit pas comme un fiasco tel qu'on a vu à l'époque de Konader. Moi, je sais mon pays. Ces programmes, ils demandent le budget.
Nous sommes optimistes que les choses vont marcher. S'il y a eu des failles, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas un gouvernement responsable.
Pour sa part, le groupe de pression Jeunes Leaders de l'Ituri dit que le grand souhait est de marier ce programme avec les opérations sérieuses afin de contraindre les miliciens à déposer les armes. Son coordonnateur Christian Chaouri.
Nous voulons que d'un côté, il y ait des opérations militaires qui soient menées, mais de l'autre côté, qu'il y ait le PDDRC qui va récupérer les armes de ceux-là qui vont se rendre.
Ces animateurs rappellent à leur tour la ferme détermination du chef de l'État à pacifier cette zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ces temps au sud Kivu, les bâtiments abritant la mairie de Kamituga dans le territoire de Mwinga étaient cernés par la population en colère ce lundi dans la matinée. La population est venue déposer les corps d'un jeune homme tué par un policier du district de Kamituga. Des coups de balle tirés par d'autres policiers ont retenti pour disperser les manifestants. Trois autres personnes ont été blessées grièvement, Jean Kassami.
L'incident de Kamituga est survenu lorsqu'un policier a tiré sur un civil pour des raisons non avouées au quartier Kélé, en plein centre-ville de Kamituga. Le même policier a blessé par balle trois autres personnes. La population est accourue pour transporter les blessés graves à l'hôpital et un autre groupe s'est dirigé à la mairie avec les corps de la dépouille sur les tipoy. Arrivé à la mairie, la police y était déjà déployée et les coups de tir à balles réelles ont commencé. Les manifestants ont abandonné la dépouille devant les bureaux de la mairie et chacun a fui dans sa direction. Les commandants district et les maires de Kamituga restent injoignables. Certaines sources à Kamituga indiquent cependant qu'une marche était prévue ce matin pour dénoncer la léthargie des autorités locales face à l'insécurité qui se vit dans la région. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Une autre vive tension a prévalu ce matin dans la partie nord de Butembo, au nord Kivu. Des membres du groupe de pression Parlement Debout de Fourou ont manifesté pour réclamer le départ de la MONUSCO de la ville. Des barricades avaient été placées par des jeunes sur la voie publique depuis la nuit. Les forces de l'ordre les ont toutes dégagées ce matin et continuent de disperser les attroupements des jeunes avec des tirs de sommation. Des échauffourées sont signalées dans différents coins de la cellule Fourou. D'après le commandant intérimaire de la police urbaine, un militaire a été blessé par des projectiles et la police a mis la main sur un présumé maï-maï parmi les manifestants. La situation est actuellement sous contrôle, affirme le commissaire supérieur principal Paul Ongoma au niveau du centre commercial et dans le reste de la ville. Les activités se déroulent normalement. À Beni, pendant ce temps, la protection civile interpelle la population à respecter les mesures sécuritaires prises par les autorités en charge de sécurité à travers le couvre-feu. Ceci après avoir constaté que, dans certains coins de la ville, la population ne respecte pas les heures sécuritaires. Pour son coordonnateur, la sécurité est une affaire personnelle dont chacun doit en tenir compte pour le rétablissement de la situation sécuritaire dans la ville. Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, s'est confié à Marc Maroufimbo.
Et si c'est à cause de sa propre sécurité, moi je pense que si on me demande même de rester chez moi à 6h du matin jusque demain, je vais le faire. C'est plus simple que ça. Notre sécurité, ça dépend de nous-mêmes. Et si les autorités prennent des mesures comme ça, c'est pas seulement le couvre-feu qui va commencer, mais il y aura d'autres actions derrière ça. C'est le moment que les gens se précipitent pour rentrer à la maison, pour faire ceci. Mais c'est le moment aussi que le malin peut aussi profiter à faire tout ce qu'il peut. Il faudra que nous puissions nous dire nous-mêmes, il est 17h, nous quittons nos activités, parce que demain est là. C'est celui qui est vivant qui peut faire des projets ou qui peut dire que je ferai autre chose demain. Et on ne peut tout finir pour la journée. Même si on nous laissait travailler jusqu'à 22h. Mais nous n'avons jamais fini tout ce que nous faisons. Là, c'est clair. Nous-mêmes, nous pouvons d'abord rentrer derrière, réfléchir sur pourquoi ceci est arrivé, comment cela est arrivé, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça n'arrive plus. Et là, je vous dis du coup, nous allons adopter les seules mesures qu'on nous a données. Et une fois que la situation est rétablie, toutes les choses vont rentrer à la normale.
Restons dans la province du Nord Kivu en début de cette année 2022 et pour éviter la confusion et l'infiltration de suspects dans la ville, le maire de Goma rappelle aux motards et autres transporteurs en commun leur obligation de se faire enregistrer à la mairie, mais aussi aux responsables des taxis et taxibus de peindre leur véhicule en couleur jaune drapeau. Ceci fait partie des mesures sécuritaires prises pour un bon contrôle et une bonne circulation dans la ville de Goma. On écoute le commissaire supérieur François Kabea Mako ça qui fait ce rappel au micro de Mathieu Ilunga Chambui.
Pour l'année 2022, les mesures ont été déjà prises, que nous pouvons seulement rappeler. Nous avons pris certaines mesures si les plans se quittèrent toujours. Parce que dès le début du mois de janvier, à partir du 4 ou du 5 janvier, nous allons procéder déjà à l'identification de tous les motards et toutes les motos dans la ville. On leur accorde un délai pour que tous les motards soient identifiés, ils seront là avec gilet. Et nous aurons un fichier quant à ça pour voir qui est motard et qui ne l'est pas, et pour éviter aussi qu'il y ait des infiltrés parmi ces motards, parce qu'il y en a toujours. Et aussi, en ce qui concerne les transports en commun, nous allons les identifier, numéroter, et on leur a demandé de peindre tous ces véhicules-là en couleur jaune drapeau. Donc, c'est-à-dire les voitures, taxis, les taxibus. Donc, ils vont peindre leurs véhicules en jaune drapeau pour éviter, parce que maintenant, si vous êtes sur la ville, c'est confondu, hein. Tout le monde est taximène, on ne sait pas qui est vrai taximène et qui ne l'est pas. Voilà un peu parmi les mesures qui ont été prises. Les services de sécurité vont continuer à faire leur travail comme toujours.
Autre nouvelle, la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa rassure que l'incendie de samedi dernier dans un des locaux du 4e étage de l'hôpital général de référence de Makala ex-sanatorium n'a causé aucune perte en vie humaine. Lisa Nembalemba explique que le local dans lequel l'incendie est parti n'avait aucun prisonnier à l'intérieur. Elle précise que des travaux y étaient effectués pour renforcer la sécurité. L'incendie n'a fait que quelques dégâts matériels grâce à l'intervention de l'équipe de pêcher sur place, rassure la ministre provinciale. Dans la province de la Tchopo, à moins d'une semaine de la rentrée académique, la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire essaye de mettre les bouchées doubles afin de réussir ce pari. C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'organisation d'un atelier sur le LMD, ce système adopté en septembre dernier à Lubumbashi lors des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire comme mode d'enseignement dans tous les établissements de ce secteur en RDC. À Kisangani, cet atelier a réuni hier à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani environ une centaine de chefs d'établissement, doyens des facultés et autres chefs de section. Un reportage de Jacques Munkokole.
À moins d'une semaine de la rentrée académique, une formation complète sur le système LMD actuellement n'est pas possible, déclare le recteur de l'université de Kisangani. L'important est de donner l'essentiel aux participants, c'est-à-dire enseigner, évaluer et gérer autrement. Mais qu'est-ce que cela veut dire, professeur Nikese Amundala-Drazo?
Enseigner autrement signifie respecter le cadre de semestralisation, autonomiser les étudiants, mais également faire en sorte que les étudiants faibles puissent avoir les niveaux d'évoluer.
Tout cela est bien beau, mais certains participants estiment que les conditions ne sont pas encore réunies pour généraliser ce système. Professeur Jacques Riverain Lofemba.
Nous sommes dans la peur générale. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comment nous allons nous y prendre? Les enseignants ne sont pas formés dans l'utilisation des intiques. Les étudiants n'en parlent pas.
Pour le recteur de l'UNIKIS, l'heure n'est plus à la tergiversation. Il faut prendre le taureau par les cornes. Professeur Benoît Dedajaï.
Chaque chef d'établissement peut aller restituer ou peut inviter l'équipe LMD Assurance Qualité de l'UNIKIS pour qu'une formation plus approfondie et plus précise soit faite dans son établissement ou dans sa faculté.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud débute l'année 2022 sans parlement. Un incendie a ravagé dimanche 2 janvier les complexes parlementaires en plein centre-ville du Cap, des bâtiments classés comme sites historiques par l'Afrique du Sud. Un homme de 49 ans a été arrêté et doit comparaître devant un tribunal mardi. Et puis le président français préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne et Bruxelles sera le cœur de la diplomatie entre l'Europe et l'Afrique lors du sommet de deux institutions régionales dès 17 et 18 février prochains. Après celui d'Abidjan en 2017, ce sixième sommet entre les deux institutions, reporté en octobre dernier en raison de la pandémie, doit se tenir en présentiel avec deux continents qui ne s'accordent pas sur tous les dossiers qui doivent être sur la table.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Rose Mutombo-Kessé a visité la prison centrale de Mbujimayi. Elle nous dresse l'état des lieux de cette prison ainsi que les dispositions prises pour son désengorgement. Elle s'entretient ici avec Esther Ndalafina.
Suivez. Madame Rose Mutombo-Kessé, vous êtes ministre d'État en charge de la justice. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Mbujimayi, au Kasaï Oriental. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici?
On est dans la délégation du président de la République pour visiter la province. Étant donné que j'étais retenu parmi les ministres qui devraient l'accompagner, on est là pour voir ce qui se passe au Kasaï Oriental, communier avec la population et surtout voir le travail du gouvernement qui est fait sur terrain.
Vous avez aujourd'hui visité la prison centrale de Mbujimayi. Quel état des lieux faites-vous de cette maison carcérale?
En tout cas, le constat est le même dans toutes les provinces. Nos prisons ont été construites du temps colonial. Celle de Mbujimayi a été construite en 1950 et qu'elle est vraiment dans un état vétuste. Ça nécessite effectivement la reconstruction des nouvelles prisons adaptées aux normes internationales, puisque ce qu'on a aujourd'hui comme prison en République démocratique du Congo, ça n'a pas ce nom-là. Et que dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, il faut reconstruire les prisons qui respectent les normes internationales, qui humanisent les détenus et surtout qui aident les prisonniers ou les détenus à s'autofinancer, c'est-à-dire il faut des prisons où on a des ateliers de métier pour que ces gens, quand ils sortent de la prison, aient un métier entre leurs mains. Il est important aussi qu'ils puissent avoir des champs, pourquoi pas des poulaillers et des fermes. Ça leur permet de diversifier et surtout d'équilibrer leur alimentation.
Vous êtes activiste des droits de la femme. Quelles sont les conditions dans lesquelles les femmes prisonnières vivent dans la prison de Mbujimayi?
En tout cas, les femmes prisonnières vivent dans les mêmes conditions que les hommes, mais sauf que elles sont peut-être à un nombre un peu réduit. Ce qui m'a frappé, c'est le fait que j'ai vu les femmes et les enfants dormir par terre. Cela m'a beaucoup touchée, à telle enseigne que je leur ai promis de leur remettre du matelas pour protéger et les enfants et celles qui sont dans le pavillon de femmes. Les matelas, on les dépose demain. Je vais demander à CAFCO d'aller déposer à mon non, puisque mon agenda est très chargé.
Vous avez vous-même constaté que cette prison est au centre de la ville de Mbujimayi et en cas de tentative d'évasion, beaucoup de personnes peuvent être victimes de balles perdues. Avez-vous pensé à délocaliser cette prison avant la construction d'une bonne prison?
J'ai lancé un message aux notables de la province, des entrepreneurs, ceux qui sont intéressés par la chose, puisque j'ai appris qu'il y a certains entrepreneurs qui souhaiteraient proposer des terrains ailleurs et reprendre ce terrain-là. Je leur ai proposé de monter leur projet, introduire ce projet au niveau de la direction générale de marché public pour que ceux-là qui seront sélectionnés puissent nous construire une nouvelle prison.
Excellence, au cours de la rentrée judiciaire, le bâtonnier ad intérim avait déclaré qu'il y avait des tribunaux qui n'avaient pas de juges. Votre ministère n'a-t-il pas pensé à un recrutement des juges pour vraiment les déployer dans ces tribunaux?
Effectivement, il faut que les gens aient en tête que le ministère de la Justice fait partie de l'exécutif et que le magistrat font partie du pouvoir judiciaire. C'est deux pouvoirs différents. Mais nous avons un cadre de concertation avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature où on discute de problèmes de mon secteur. Mais par rapport au recrutement, je crois que nous avons tous suivi lors de l'état de la nation du président de la République. Il a épinglé cela. Effectivement, la République démocratique du Congo a besoin d'au moins 10 000 magistrats, mais aujourd'hui, on est aux environs de 3 000. D'où il y a un déficit criant et que l'année prochaine, nous osons croire qu'on va organiser le recrutement par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça urge maintenant.
Une dernière question, Excellence. Êtes-vous informé que les femmes qui sont arrêtées au cachot du tribunal de paix passent la nuit dans des carcasses de véhicules ici en Bujumbura?
Je viens d'apprendre ça de la part de la société civile, cela n'a pas été épinglé. Mais je crois qu'on va échanger avec les autorités provinciales pour voir dans quelle mesure on peut construire même un petit bâtiment pour pouvoir interner ces femmes-là, puisqu'ils ont droit à la protection. Rester dans les véhicules, peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver la nuit. Ce n'est pas sécurisant pour les femmes. Déjà, elles sont vulnérables. Qu'elles se retrouvent encore dans les véhicules, ce n'est pas bon.
Madame Rose Mutombo-Kessé, je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Esther.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.